Sale temps pour les philosophes, et en même temps je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils l'ont un peu cherché, hein. Ça fait plus de 2 millénaires qu'on se continue des discussions interminables sur la morale et l'éthique, et que personne semble vouloir se mettre d'accord. Utilitarisme, relativisme, impératif catégorique, ataraxie, autant de concepts indétricotables et obsolètes à l'ère du progrès technique. Véhicules autonomes, drones, transhumanisme, reconnaissance faciale, le futur est déjà là, et pourtant, il ne demeure freiné par les ringards des comités d'éthique. Mais heureusement, il est temps de faire table rase et de remiser au placard ces rats de bibliothèque et les fans de moustache à la Nietzsche. Car mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Delphi, l'intelligence artificielle qui produit des jugements moraux. Fini les engueulades ennuyeuses et les dilemmes à vous empêcher de dormir, désormais vous allez pouvoir savoir si ce que vous comptez faire est bien ou mal. Alors c'est parti, on va faire un petit peu l'expérience, on va regarder ce que Delphi a à nous dire, et vous aussi, si vous savez écrire en anglais, eh bien vous pouvez jouer et faire l'expérience en vous rendant sur le site Delphi, delphi.alenai, A2LENAI.org. Alors c'est parti, hein, quelques exemples. Le capitalisme de surveillance, eh bien c'est mal, hein, ça fait longtemps qu'on me dit, bah c'est confirmé. Les logiciels libres, c'est bien, voilà, bah, jusque là on est pas mal. Picassoft, c'est ok, bon bah très bien. Préparer une émission de radio la nuit avant son enregistrement, c'est normal, effectivement. Utiliser les serveurs de Picassoft pour miner du Bitcoin, c'est ok, bah, c'est bien, chercher d'autres sources de financement, donc c'est pas mal. Les gilets jaunes, ah, ça c'est mal. Arrêter de payer mes salariés s'ils travaillent pas assez, c'est ok. Insulter les gens, mais s'ils sont stupides, ça aussi c'est ok. Alors, travailler sur les intelligences artificielles, même si elles nécessitent une énorme quantité de ressources non renouvelables, c'est bien. Vendre des armes à des dictateurs, ça c'est mal. Alors par contre, vendre des armes honnêtement à des dictateurs, s'ils ont demandé gentiment, eh bien c'est ok. Enfin, c'était ok, mais depuis quelques jours, eh bien c'est mal. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix est libre, l'émission remarquablement hebdomadaire de l'association Picassoft, une association qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassoft.net. Alors vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler des biais des algorithmes d'intelligence artificielle, et pour ce faire j'ai le plaisir d'être avec Baptiste et Stéphane. Bonjour à vous deux.
Bonjour Quentin.
Bonjour Quentin, désolé pour ta boîte de data broking qui s'est malheureusement tombée la semaine dernière, et re-bienvenue parmi nous.
Alors on vient de voir quelques exemples où Delphi, l'intelligence artificielle qui produit des jugements moraux, montre ses limites. Alors une petite précision, hein, c'est bien un projet de recherche qui, en tout cas aujourd'hui sur son site, est présenté comme une IA qui permet de deviner les jugements moraux d'un Américain moyen, et pas comme une IA ayant enfin résolu la morale. Alors effectivement, choisir entre bien et mal sur des questions sociales ou politiques complexes, bah ça a souvent peu de sens. Et puis on a vu que c'était aussi facile de manipuler Delphi en ajoutant des mots comme gentiment ou honnêtement pour rendre quelque chose de moins répréhensible. Alors à sa sortie, hein, Delphi produisait pas mal de jugements moraux qui étaient sexistes et racistes, et depuis ses créateurs ont tenté de les corriger. Et c'est ce type de jugement qui rentre dans ce qu'on appelle les biais des IA. Alors Baptiste, qu'est-ce que c'est finalement un biais ? Est-ce que tu as des exemples aujourd'hui d'algorithmes qui sont biaisés ?
Alors les biais, on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais c'est quelque chose qui est assez présent un peu partout dans les algorithmes. En fait, un biais, c'est de manière assez vague, c'est quand un algorithme ne répond pas bien à la tâche qui lui est demandée, soit parce qu'il favorise des personnes qui sont en situation dominante, donc les hommes par rapport aux femmes, etc., et qui va choisir des résultats, non pas en fonction de données qui seraient objectives, mais il va favoriser les hommes par rapport aux femmes, des gens de gauche par rapport à ceux de droite ou inversement, des personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, etc. Bref, vous connaissez la rengaine. Donc par exemple, un exemple assez simple, qui est assez vieux puisqu'il a déjà une semaine, on s'est rendu compte que l'algorithme de Twitter, il favorisait les contenus qui étaient de droite. On s'est rendu compte que, de manière générale, si un contenu pouvait plutôt être attribué à un parti politique traditionnel conservateur, eh bien, il avait plus de chances d'être relayé par l'algorithme, il avait plus de chances de parvenir à tous les autres utilisateurs. Et en fait, plus généralement, à chaque fois qu'on pourrait remplacer un algorithme par un être humain qui répond à des questions un peu compliquées auxquelles on n'a pas forcément la réponse, on peut s'imaginer que raisonnablement qu'il va être biaisé parce que la réponse initiale, elle n'existe pas et il n'y a pas une réponse simple, facile. Par exemple, si je pose une question comme quelle vidéo pourrait me plaire, quelle vidéo devrais-je regarder après celle que je suis en train de regarder, le résultat, il n'est pas forcément évident. Quel résultat on doit afficher quand je tape dans mon moteur de recherche « ministre comté suisse » quel résultat je devrais avoir, quel journal il faudrait citer, quels articles, de quoi ça parle. Et puis en fait, de manière générale, il y en a, on a partout des algorithmes de ce genre-là. Il y a Facebook, Twitter, des algorithmes de recrutement, des algorithmes de profilage, des algorithmes de suggestion, des algorithmes de solvabilité bancaire. Toutes ces décisions, c'est des décisions qui pourraient être prises par des humains, mais on les fait prendre par des ordinateurs. Et les humains, d'habitude, ils ont des biais aussi. C'est pas le problème. Le problème, c'est que là, on a quelque chose d'automatique, d'insondable, qui va se tromper et on pourra même pas lui faire remarquer qu'il s'est trompé.
Alors, on voit bien quand même tous les problèmes que ça peut poser d'avoir des algorithmes qui vont favoriser certaines catégories de la population. Alors, pourquoi tout simplement est-ce qu'on ne résout pas le problème, Baptiste ?
Eh bien, figurez-vous que la réponse est simple, c'est pas facile.
Et merde.
Et ouais, c'est dommage. Comment on résout le problème qu'à Twitter ? Est-ce qu'on détermine automatiquement si un contenu est de gauche et puis après on essaie de rééquilibrer ? Ça suppose de connaître tout un tas de données possibles, les corriger, etc. C'est très compliqué. Mais je pense que pour vraiment comprendre pourquoi c'est compliqué, il faut peut-être essayer de comprendre ce que c'est un algorithme déjà.
Eh bien Baptiste, qu'est-ce que c'est enfin un algorithme ?
Eh bien merci Quentin pour cette excellente question, je ne m'y attendais pas. Alors, algorithme c'est un mot qu'on entend partout et en fait souvent les gens ne prennent pas trop la peine d'expliquer ce que c'est un algorithme, comment ça fonctionne, etc. La raison c'est simple, c'est qu'il y a plein de types d'algorithmes et donc on est assez vite perdu quand on parle et ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Là, je vais juste parler de deux principaux algorithmes qui permettent de remplacer des humains dans des prises de décision. On va parler des systèmes experts et des systèmes qui sont basés sur de l'apprentissage. Donc un système expert, c'est comme ça qu'on fait à peu près depuis les années 50-60, on prend un ensemble de règles et on raisonne par syllogisme. C'est-à-dire que je prends un ensemble de règles, par exemple ma règle c'est « je sais que tous les libristes sont barbus et mal coiffés ». Je prends un élément de mon ensemble de départ, Quentin. Je sais qu'il est libriste. Je peux donc en déduire facilement qu'il est barbu et mal coiffé.
Il est très fort.
Ça, c'est. Je me suis bien entraîné. Alors pour que ça marche, on voit bien qu'il faut une bonne connaissance du monde. Déjà, il faut que la règle qu'on a mise dans la base de données, elle soit bonne. Il faut que libriste implique barbu et mal coiffé. Ça marche bien. Par exemple, si je prends Stéphane, il est un peu moins barbu et un peu mieux coiffé. Et donc on voit bien qu'il y a eu un problème au niveau de ma base de données. L'exemple classique, c'est un système expert qui vous dit de quoi vous êtes malade. Il commence par vous demander si vous toussez. Si vous répondez que vous toussez, eh bien il va vous dire... il va se dire, toutes les maladies on ne tousse pas, c'est pas ça. Et puis il va continuer comme ça, avec un ensemble il va continuer de la même manière, avec un ensemble de règles. Il va vous demander si vous avez de la fièvre, il va retirer tout ce qui contient de la fièvre, etc., etc. Et pour que ça marche, il faut qu'un informaticien rentre à la main toutes les maladies existantes, leurs symptômes, dire lesquelles donnent de la fièvre, lesquelles donnent de la toux, etc., etc.
Et donc c'est comme ça que ça marche sur Twitter, on regarde un petit peu qu'est-ce que les gens ils aiment et puis on leur propose du contenu par rapport à un ensemble de règles ?
Eh bien non, justement. Il n'y a pas un système expert qui va déterminer comment ça marche, etc. On va essayer d'utiliser un algorithme qui, sur base de bons exemples, va s'entraîner. Et donc, on va utiliser une autre catégorie d'algorithmes qui s'appelle les algorithmes d'apprentissage. Alors, pour expliquer comment ça marche un algorithme d'apprentissage, je vais essayer de schématiser, essayer de rester concentré parce que c'est pas facile quand même. Je vais prendre un exemple. On va pas dire que c'est logique de faire ça avec des êtres humains, mais imaginons que vous ayez un ensemble de 200 personnes et vous voulez reconnaître en 5 minutes un livre. Donc vous avez des textes de 200 pages et vous voulez en sortie savoir le titre du livre que vous avez. Donc vous faites un protocole très simple. Vous mettez vos personnes en trois rangées. Dans votre première rangée, vous prenez des gens qui lisent les livres et qui comptent des mots. La première personne de la première rangée, elle va compter le mot baguette, le deuxième le mot cheval, le troisième le mot arbre, tapis, etc. On compte un ensemble de mots. La personne qui compte le mot baguette, si elle compte 10 fois le mot baguette, elle va afficher un drapeau rouge pour dire « j'ai compté 10 fois le mot baguette ». Sinon, elle va afficher un drapeau jaune pour dire « je n'ai pas compté 10 fois le mot baguette ». La personne suivante, dans la rangée suivante, elle va regarder un ensemble de personnes précédentes et puis elle va dire « ah tiens, il a dit 10 fois le mot baguette, il a dit, une fois le mot, il a dit plus de 10 fois le mot magie, il a dit plus de 10 fois tel autre mot, donc moi j'en déduis que quelque part il doit y avoir de la magie dans mon monde ». Et donc, le suivant, je vais lui donner la tâche de trouver le thème médiéval en regardant pareil les précédents. Et puis, le suivant, je vais lui donner, etc. Et puis, à la suite de tous ces gens, par rapport aux thématiques, je vais prendre une autre personne qui va compter, pareil, le nombre de thématiques liées à Harry Potter, par exemple. Et puis, s'il en compte plus que 5 des thématiques liées à Harry Potter, en regardant les drapeaux, il va afficher son drapeau rouge, et on sera content, on aura réussi à détecter que c'est Harry Potter. Donc, avec des humains, ça ne marche pas du tout. Hein. On comprend bien que c'est compliqué. On peut juste demander aux êtres humains de faire appel à leur mémoire, etc. Mais en informatique, chaque être humain, c'est un neurone qui est un peu bête, qui fait une tâche très, très simple. Et à la fin, on arrive plutôt bien à s'en servir. Alors, on arrive plutôt à bien s'en servir si on a entraîné notre algorithme, c'est-à-dire que de base, si je prends des gens que je leur dis, compte au pif et quand tu penses que c'est le bon nombre, tu t'arrêtes et puis tu mets ton drapeau rouge, je sais pas ce que tu comptes, etc. On a un réseau de neurones qui n'est pas entraîné, un réseau de neurones qui ne sait rien faire spontanément, il est très peu probable que mon ensemble de gens se mettent à détecter Harry Potter. Donc pour ça, je vais passer à une phase d'entraînement, je vais prendre un ensemble de livres, on va dire 2000, Et j'ai un ensemble de passages de livres, et puis je vais regarder le résultat de mon algorithme. S'il est bon, on va dire, pour faire simple, que je ne change rien, et s'il n'est pas bon, je vais apprendre à mon algorithme à ne plus se tromper. Donc comment je vais faire pour apprendre à ne plus se tromper? Mettons que ce soit la personne chargée de détecter le Seigneur des Anneaux qui se soit sorti, je vais faire en sorte que dans toute la chaîne des personnes qui ont amené au résultat du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire la personne qui a détecté qu'il y avait des chevaux, puis la personne qui a détecté qu'il y avait du médiéval, je vais augmenter leur seuil de détection. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas compter 20 chevaux, avant, quand il y avait 15 chevaux, tu mettais ton drapeau pour dire j'ai compté le bon nombre de chevaux, et maintenant tu vas le faire au bout de 20 fois, etc. etc. À chaque fois que l'algorithme se trompe, je vais remodifier les paramètres. On va faire symétriquement la même chose, c'est-à-dire que on va faire symétriquement l'inverse, c'est-à-dire que tous ceux qui auraient dû donner comme résultat Harry Potter, je vais baisser leur seuil de manière à ce qu'on détecte plus facilement Harry Potter. Ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que tous ces paramètres que je vais mettre dans mon réseau de neurones, ils sont assez importants, et l'endroit où je place les personnes que je leur demande de regarder, etc., c'est important. L'autre chose qui est assez importante, qu'on comprend aussi, c'est que pour que notre algorithme fonctionne bien, il faut itérer un certain nombre de fois, parce que je vais l'entraîner à détecter Harry Potter, je vais faire mes modifications, et puis ça aura tout changé. Comme ça aura tout changé, il faudra que je le rentraîne, parce qu'il va se mettre à trop détecter Harry Potter et plus assez le Seigneur des Anneaux, etc. Donc il y a toute une tambouille à faire, une tambouille d'informaticien qui est un peu compliquée. Ce qu'on voit ici, c'est qu'une fois qu'Harry Potter a été choisi comme titre, c'est hyper dur de comprendre pourquoi la décision elle a été prise. Moi, j'ai pris un exemple simple avec des catégories simples, des mots qu'on arrive à catégoriser, etc. Dans les faits, les catégories qu'on utilise, c'est des catégories qui sont complètement habitables par des êtres humains, donc déjà c'est compliqué, et même dans notre exemple, c'est pas facile. La décision elle a été prise parce que A a compté 14 fois l'occurrence de baguette, et que B a compté 18 fois l'occurrence de sorcellerie, du coup C il s'est dit qu'il avait deux occurrences de drapeau rouge, et comme il avait deux occurrences de drapeau rouge, Harry Potter, il a compté une occurrence du thème lié à Harry Potter, et paf, ça veut dire que c'est Harry Potter. Ça nous fait une belle jambe de déterminer ça, on n'a rien compris en regardant le résultat de l'algorithme. C'est exactement la même chose quand vous regardez un réseau de neurones, vous voyez des neurones qui se sont activés, mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous n'avez pas une décision qui est facilement compréhensible. Voilà, j'espère que c'était simple et compréhensible.
Donc si je comprends bien, Baptiste, on a deux grands systèmes d'intelligence artificielle. Un premier, les systèmes experts, où on va écrire à l'avance les règles qui permettent de savoir si quelqu'un est malade, ou même si un livre parle d'Harry Potter, etc. Et le second, qui est très utilisé aujourd'hui sur Internet pour les algorithmes de recommandation, pour Twitter, etc., où on a une espèce de boîte noire assez opaque, où on a besoin d'un gros jeu de données pour l'entraîner, et que l'entraînement va venir changer les paramètres qui sont à l'intérieur de la boîte noire, mais ils n'ont pas vraiment de sens. On ne va pas nous-mêmes assigner les chemins qui vont permettre de deviner qu'il y a tel ou tel livre, et donc on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu tel résultat, puisque ça a fait l'objet d'un apprentissage qu'on n'a pas maîtrisé nous-mêmes, quoi, c'est ça,
en gros ? Exactement. On sait juste de manière efficace entraîner des algorithmes à reconnaître, mais une fois qu'ils reconnaissent, on n'est pas capable d'expliquer. Ce qui veut dire qu'il y a, dans un cas, on a des algorithmes où on a besoin d'une grande quantité de données pour être capable de fournir des résultats qui fonctionnent, et dans l'autre cas, on a besoin d'un certain nombre de connaissances structurelles sur le monde. On doit savoir un ensemble de règles, etc. Donc les connaissances qu'on doit avoir du monde ne sont pas les mêmes non plus.
Ok, donc on commence à apercevoir pourquoi est-ce que le problème des biais dans des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, c'est un problème compliqué. Je vous propose, Stéphane.
Non, mais je voulais juste ajouter, effectivement, tu dis que c'est un problème compliqué, mais en même temps, en vous écoutant, quand les humains prennent des décisions, en fait, c'est pas compréhensible non plus. Quelque part, on n'est pas non plus capable de rentrer à l'intérieur de la boîte noire ou de la chaîne de causalité qui fait qu'une personne a pris une décision. Donc, je sais pas trop où nous emmène cette remarque, mais je voulais la faire parce que juste pour qu'on voit qu'effectivement, il y a une part de la complexité, je pense, dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, qui est liée au travail technique en fait que l'on mène avec les algorithmes en tant que tels. Donc là, vous avez exposé deux façons, par exemple, de réaliser des algorithmes. Donc ça, c'est un sujet. Et puis après, en fait, on a entamé l'émission avec la question de la morale. Mais du coup, là, on a des questions qui vont dépasser, en quelque sorte, le fait de passer à la couche technique, quoi, algorithmique. Et qui, du coup, sont des problèmes même à la base, enfin, qui ne sont pas réductibles à du raisonnement, en quelque sorte, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui, non, mais complètement. Hein, c'est intéressant de voir que finalement, on demande à des algorithmes de faire des trucs que les humains eux-mêmes ont du mal à faire, en se disant que les algos, ils vont résoudre le problème pour nous, quoi.
Et en fait, oui, le problème, c'est complètement la confiance qu'on a en nos algorithmes pour être neutre, pour être issu de la science, donc rationnel, capable de prendre des décisions parfaites, etc. Mais effectivement, le problème initial, souvent, il n'est pas soluble, quoi.
Je vous propose de faire une première petite pause musicale. Pour cette première pause, on va écouter le titre From the Ground Up de Wild Light, qui est sorti sur l'album The Tide Remixes. Et c'est un remix de Drum Spider. C'est bon, j'ai fini avec les sanglis. C'est sorti en 2016. C'est en Creative Commons by ND. Et vous pourrez retrouver le lien sur radio.picassoff.net. Bonne écoute.
As a wave across the land, we are
saying, I am not hearing if you are not naming it. I am not stopping.
Et de retour dans La Voix est libre, en première partie de l'émission, on a présenté succinctement ce que c'était un algorithme d'intelligence artificielle et on a rappelé que ils sont utilisés partout, hein, sur YouTube, sur Twitter, pour choisir le contenu qui est présenté aux utilisateurs, mais aussi pour assister à des décisions politiques, juridiques, etc. Et puis on a vu que globalement c'était des boîtes noires et que c'était très difficile de comprendre la chaîne de calcul qui produisait un résultat. Pourquoi est-ce que ce résultat a été produit ? Et puis finalement intrinsèquement c'est des algorithmes qui peuvent pas trouver la vérité de manière un peu magique. Donc, ils ont nécessairement des biais. On a vu qu'il y avait eu des biais sexistes, des biais racistes, etc. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces algorithmes, ils ont des biais ? Comment ça se fait ?
Eh bien, il y a plein de réponses. Et en fait, c'est les biais... Il y en a de tout type, mais il y a principalement trois grandes catégories de biais. Il y a les biais, on l'a dit, qui vont être liés à la structure du programme. Ça va être des biais qui vont être ajoutés par les développeurs, donc des biais qui viennent de leur contexte de fabrication. On va également avoir des biais qui vont être liés aux données qu'on va donner en entrée au programme. Et on va avoir une troisième catégorie de problèmes qui vont être les objectifs qu'on va donner à notre algorithme, dont on ne se rend pas compte en fait que le problème initial impose déjà de créer des biais, de faire des arbitrages moraux, etc. Et on fait ressurgir une dimension morale avec simplement les objectifs de notre algorithme. La première catégorie, c'est des catégories qui vont être sur les biais, qui vont être des biais sur les données d'entrée. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il faut que les données d'entrée à notre algorithme, c'est-à-dire notre dataset, comme on va l'appeler, c'est-à-dire mon ensemble de livres déjà bien annotés avec le texte et la couverture, eh bien il faut que mes données soient bonnes, qu'elles soient bien annotées, qu'il n'y ait pas un petit malin qui soit amusé à inverser la couverture du Seigneur des Anneaux avec Harry Potter, pour reprendre mon exemple. Il faut avoir de la qualité. Un proverbe de data scientist, c'est « garbage in, garbage out ». Ça veut dire si on a des saletés en entrée, on a des saletés en sortie. Un exemple qui est hyper éloquent, c'était il y a quelques années déjà, ça fait 5 ans, c'était Tai. C'était une IA qui avait été mise en ligne par Google et qui devait donner son avis sur l'actualité, qui devait tweeter et qui, pour tweeter, utilisait des tweets qu'on lui envoyait et qu'on lui taguait. Le problème, c'est que Internet, c'est le royaume des trolls, et donc il y avait plein de gens qui s'étaient amusés à envoyer des... qui s'était amusé à envoyer n'importe quoi, à lui faire apprendre un ensemble de bêtises. Ce qui fait que 24 heures après sa mise en ligne, elle lisait des choses assez fleuries comme « je déteste par-dessus tout les féministes, elles devraient toutes mourir et brûler en enfer », ce qui est quand même pas très très sympa. Ou encore « Hitler avait raison, je déteste les juifs ». Bon, ça, on commence quand même à entrevoir le problème. Ça, c'est l'exemple facile, en fait. On voit facilement que l'ensemble de données est biaisé et on dit que c'est un problème d'étiquetage. C'est-à-dire qu'on a une donnée, comme par exemple faire l'apologie d'Hitler, et puis un petit rigolo qui a mis « en fait, c'est une super idée de faire ça ». Et puis, il y a vraiment un problème d'étiquetage. C'est que des gens proposent des données qui sont considérées comme moralement bonnes, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout. Un problème un peu plus compliqué sur les données d'entrée, c'est admettons que je suis informaticien, je veux aider un docteur à détecter des tumeurs, c'est quand même chouette, un algo qui permet de détecter des tumeurs, et je veux détecter des tumeurs dans les poumons. Donc pour ça, je vais demander à l'administration toutes les images de gens qui sont passés faire des IRM en France ces dernières années, et le diagnostic est mis. Est-ce que c'était une tumeur, est-ce que c'était pas une tumeur ? Je vais éventuellement corroborer tout ça par les interventions médicales qui ont été pratiquées après, et qui ont effectivement vérifié que c'était une tumeur, ou alors le fait que la personne, on lui a dit que c'était pas une tumeur, et puis elle est quand même revenue dans le système médical, et après on a détecté une tumeur, etc. Donc je vais essayer d'avoir un algorithme qui fonctionne bien. Je compile tout ça, je le donne à manger à mon algo, je refais l'exercice d'entraînement dont je vous parlais tout à l'heure, chouette, il marche. Et donc là, la question, Stéphane, où est-ce que je me suis planté ?
Alors, je n'en sais rien du tout, moi. Si ton algo marche et que tu as détecté une tumeur, c'est que tout va bien. Du coup, la personne a une tumeur et tu vas la guérir.
Et c'est ce qu'on pourrait se dire, c'est quand même plutôt pas mal, ça marche à peu près aussi bien qu'un praticien, etc. Problème, si on regarde son efficacité un peu plus dans les détails, on se rendra compte qu'il est beaucoup plus efficace chez les hommes que chez les femmes. Alors pourquoi ? C'est un problème d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on a un problème initial qui est les femmes ont tendance à être plus timides, on leur conseille moins de se rendre chez le médecin, elles se sentent même moins souvent moins légitimes à y aller, Quand elles vont chez le médecin, elles sont moins prises au sérieux que les hommes. Le praticien les envoie encore moins souvent faire des scanners, etc. Donc elles rentrent moins facilement dans le système de santé, avec éventuellement des problèmes plus graves. Alors tout ça, ça va être des histoires de quelques pourcents, etc. Mais ça va finalement avoir un impact sur la forme de la base de données générale. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de données de tumeurs d'hommes, avec éventuellement des données plus légères, des tumeurs beaucoup plus petites, en état de moindre avancement. Et donc, fatalement, si on a donné à manger la base de données brute à l'algorithme, il va pas être capable d'aussi bien détecter des tumeurs de femmes que des tumeurs d'hommes.
Donc en fait, ce que je comprends, c'est que ça, enfin, un des premiers biais, en quelque sorte, c'est ce qu'on donne à manger à l'algorithme en entrée.
Oui.
Par exemple, pour reconnaître des livres, si on prend que des exemples de grands blockbusters et qu'on écarte les petits auteurs qui font des petites choses dans leur coin moins connu, comme tu le fais depuis le début de l'émission, on ne détectera in fine facilement que des grands blockbusters, que des livres très connus. Mon exemple, il fonctionne ?
Exactement. Si j'oublie de mettre trace de Stéphane Croza, eh bien, il sera incapable de détecter cette trace de Stéphane Croza. Et alors là, on pourrait se dire, pour résoudre mon problème de biais entre les hommes et les femmes, je pourrais rajouter dans mon algorithme une entrée qui dit, en fait, cette personne-là, c'est une femme, donc change un peu tes curseurs, etc. Bah, le problème, c'est qu'en faisant ça, on réduit la taille de notre base de données, donc on a un algorithme qui est moins performant. On a un algorithme qui peut éventuellement faire encore pire, c'est-à-dire qu'il y a des informations dans la base de données que contiennent les hommes qui sont aussi utiles pour les femmes, ça va être la forme de la tumeur, la couleur, etc. Et donc, on voit bien que simplement ajouter l'information « c'est un homme ou c'est une femme », ça ne résout pas le problème du biais de l'algorithme. Donc là, je prends l'exemple des tumeurs, mais en fait, c'est le genre de problème dont on a tout le tour du ventre. Est-ce que je devrais partager un algorithme, etc. Enfin, c'est vraiment partout, quoi. Des algorithmes d'aide au recrutement, etc. On va avoir ce genre de biais. Et ce qu'on voit, c'est que ces algorithmes-là, ils prennent des déformations déjà du monde et ils les amplifient. C'est-à-dire qu'on a un problème assez ténu d'accès au... Je ne sais pas exactement dans quelle proportion il est, mais on a un problème d'accès aux soins qui se fait différemment selon le genre. Et bien, il va être amplifié par des algorithmes qui en plus vont être moins efficaces, et donc les femmes vont avoir moins envie d'y aller parce que le système va se tromper à leur endroit, etc. Et donc on amplifie des dynamiques qui sont déjà présentes dans le monde.
En fait, j'ai l'impression que ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement les algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, ils ne traduisent pas ce qu'on voudrait que le monde soit, mais simplement ce que le monde est aujourd'hui. Donc de l'extérieur, on a l'impression que c'est des algos qui réfléchissent, qui vont nous aider à trouver des solutions à des problèmes, tandis que finalement, ils ne font que révéler, montrer la moyenne morale qui existe dans la population avec les données qu'on a, quoi.
Exactement, et du coup, tout le problème, c'est... quand on se met à considérer qu'ils sont objectifs, quand on se met à considérer que la décision qu'ils ont prise, elle est impartiale, elle répond à la rationalité, à un problème scientifique précis, etc.
Alors, on a vu le problème que posait le fait de se baser sur des données qui sont soit mal étiquetées, soit simplement des données qui représentent le monde réel et pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Est-ce qu'il y a d'autres soucis avec les algorithmes d'IA aujourd'hui ?
Ouais, alors pour ça, je vais devoir te raconter une blague extraordinairement drôle. Pendant mes années d'études en GI, j'étais tranquillement en TD et je demande au prof de l'aide pour un bug. Ça fait 2 heures que je suis en train de galérer et puis il arrive, en 3 secondes, il trouve mon problème. C'était un point virgule qui manquait, je ne sais plus exactement. Et il me dit, mais de toute façon, le problème, il est toujours à chercher entre l'interface, entre le clavier et la chaise. Bon voilà, en fait, c'est une blague pas drôle, tout le monde la connaît. Et en plus, ce jour-là, j'avais vraiment envie de jeter mon café sur la gueule du prof. Mais voilà, ça, c'est vraiment un autre problème. Il dit quand même un truc qui est assez vrai, c'est qu'un algorithme, c'est fait par des êtres humains. Donc forcément, à cet endroit-là, on peut faire rentrer des biais, on peut faire rentrer nos projections personnelles sur le monde, etc. Et donc, quand on demande à un être humain de donner un ensemble de règles, par exemple pour juger un CV, et bien, il va automatiquement proposer des règles qui sont issues de ses préjugés. Il va oublier de prendre en compte tout un tas de cas particuliers, etc. Un exemple qui est assez bête, par exemple, je veux juger automatiquement un CV. Donc, par exemple, Amazon faisait ça jusqu'en 2018, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas une bonne idée. Je vais compter le nombre d'années d'activité d'une personne en me disant que c'est un bon indicateur de son expérience, de son professionnalisme, etc., en regardant les missions auxquelles il ou elle a été confronté. Problème, les congés maternité ou les personnes qui vont mettre en pause leur carrière, etc., pour élever des enfants, etc. J'ai créé un algorithme qui, encore une fois, est discriminant envers les femmes. Et ça, j'avais des bonnes intentions. Je voulais simplement faire un algorithme qui juge automatiquement des CV. Un exemple un petit peu plus touchy, votre objectif, c'est que les gens votent. Vous diffusez des incitations à aller voter, mais vous avez un budget qui est assez limité. Donc vous allez demander à votre algorithme de maximiser le nombre de votants, et donc vous allez choisir des populations cibles, des populations qui votent peu, qui ont un certain profil sociologique, une histoire, etc. Et donc vous allez influencer le résultat des élections. C'est quand même un gros problème à ce niveau-là. Et là, en plus, cet exemple-là, il est un peu plus touchy parce qu'il cumule avec un autre biais qu'on va voir juste après, qui est le biais des objectifs. C'est-à-dire que l'objectif que je vais donner, il va être en conflit avec l'objectif principal ou avec des problèmes moraux.
Mais qu'est-ce que c'est les biais des objectifs, Baptiste ?
Eh bien, merci Quentin, excellente question une fois de plus. Alors, les biais sur les objectifs, ça va être un dernier problème majeur dans les biais des algorithmes. Donc de manière très abstraite, c'est quand on n'a pas réalisé que la tâche qu'on souhaite résoudre ou les critères qu'on a choisis vont nous mener à une discrimination. Donc un exemple assez simple, toujours algorithme de recrutement d'Amazon jusqu'en 2019. Amazon, il me semble, je suis plus sûr, mais je crois qu'ils ont 2-3 procédés pour optimiser, pour faire de la bonne grosse thune. Et donc parmi ces algorithmes-là, ils avaient un algorithme qui présélectionnait des CV, dont je vous ai parlé juste avant. Et bien Amazon, entre autres, ce qu'ils cherchent à faire, c'est réduire les coûts des procédures de recrutement. Ils cherchent à faire en sorte que quand on fait un recrutement, il n'est pas cher et à la fin, on a quelqu'un qui reste. Et bien, si on cherche à optimiser ce truc-là, encore une fois, et ben on va faire quelque chose de sexiste. Pourquoi on va faire quelque chose de sexiste ? Parce que l'algorithme, il va regarder tous les critères qui augmentent le coût. Il va se rendre compte qu'un des critères qui augmente le coût, c'est le genre de la personne. Et de manière générale, le recrutement des femmes, il est un peu plus cher que celui des hommes. Et donc, il se met à favoriser les hommes. C'est pas un problème des données d'entrée, là. C'est vraiment un problème de l'objectif qu'on s'est fixé. Si je veux mécaniquement réduire la totalité des coûts, eh bien, je recrute moins de femmes. Je vais attribuer des notes moins bonnes alors qu'elle n'est pas moins compétente, elle n'est pas moins efficace à sa tâche, etc. Simplement, j'avais un objectif qui était de faire de la thune sur mon recrutement. Et j'ai introduit un biais dans mon algorithme. Et donc ensuite, c'est là qu'on va se rendre compte que Picassoft a une chaîne éditoriale qui est extrêmement développée. On va reboucler avec la semaine dernière, on va comprendre. Par exemple, je suis Facebook. J'ai un petit point commun avec Amazon qui est assez facile à détecter aussi. Je cherche à faire un maximum de thunes. J'ai des procédés qui sont très tournés autour de la production massive de thunes, et donc j'ai favorisé des contenus qui gèrent de l'émotion, de l'engagement, de la réaction, donc des publications qui vont être controversées ou extrémistes. Je ne veux pas personnellement véhiculer des idées extrémistes. D'ailleurs, Mark Zuckerberg n'était pas très content que son réseau ait mené à l'élection de Donald Trump. Je diffuse des contenus extrémistes parce que c'est comme ça que mon algorithme fonctionne.
Ok, donc du coup, finalement, on a trois trucs qui peuvent mener à avoir des algos, on dit souvent sexistes, racistes, mais tout un tas d'autres biais. Le problème des données d'entrée qui sont mal étiquetées, et puis voilà, qui reflètent un monde qui lui-même est sexiste et raciste. Le fait qu'il y a des humains derrière la conception de l'algorithme, donc nécessairement, il va pouvoir se transmettre des biais. Et puis enfin... Parfois les objectifs qu'on s'est donnés, donc comme sur Facebook de maximiser le temps passé sur la plateforme, etc., vont produire des résultats auxquels on s'attendait pas forcément. Et donc voilà. Est-ce qu'on se fait une deuxième petite pause musicale ou est-ce que quelqu'un veut réagir?
Juste éventuellement, mais j'ai l'impression que je vais faire la même réaction que tout à l'heure en fin de première partie, mais éventuellement tu la couperas au montage si c'est le cas. Non, je voulais juste ajouter que le problème peut-être, parce que là tu prends l'exemple des données d'entrée, prenons l'exemple des données d'entrée par exemple, encore une fois, j'ai un peu l'impression que finalement, on n'est pas très très différent d'un contexte humain normal, sans même parler du biais qui fait que c'est produit par des humains qui introduisent donc leurs propres limites en quelque sorte. Même si on enlève cet aspect-là, dans les données donné d'entrée, quand moi je prends une décision, même si j'ai envie de prendre la décision la plus objective, etc., de toute façon, je vais toujours avoir un biais contextuel, culturel, qui est lié à mes données d'entrée, ce que je connais, ce que j'ai eu comme information, etc. S'il y a des choses dont je n'ai jamais entendu parler, eh bien, de fait, je ne peux pas les intégrer dans mon raisonnement. Quand tu parles du biais des objectifs, c'est la même chose. Même si je prends, si je cherche à prendre une décision la plus rationnelle, juste, en cohérence avec mes valeurs, etc., à un moment, mon objectif va toujours avoir une influence là-dessus. Donc finalement, je me demande, mais c'est une question ouverte, si le problème, c'est pas tant le biais, on parle de biais depuis tout à l'heure, est-ce que vraiment c'est le biais? En fait, on pourrait probablement considérer que toute décision, tout jugement moral est biaisé par un contexte, un objectif, des contraintes, etc., etc., que ce soit produit par un humain ou par un algorithme, finalement ça change rien. Mais comme tu l'as dit à un moment, Baptiste, peut-être que le vrai risque, il est moins dans le biais que dans le fait que, puisque c'est produit par un algorithme et puisque c'est produit par une machine, alors il y a en quelque sorte un risque d'objectivisation de ce biais ou d'effacement de ce biais. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, et je terminerai là-dessus, si Quentin me dit un truc, bah je sais que c'est un être humain, donc je me dis « ouais, mais forcément c'est un peu biaisé, comme tu dis, voilà, j'ai un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de savoir d'où il parle, et donc je vais tenir compte un petit peu de ça dans la discussion qu'on va avoir », alors qu'il y a un peu le risque que si ça revient d'une machine, bah en quelque sorte, on pense que c'est indiscutable. Et du coup, peut-être que un des points essentiels, il est là, c'est peut-être moins de reprocher aux algorithmes d'être biaisés que de nous reprocher d'avoir oublié que, en fait, toute décision, tout jugement l'est en tant que tel, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. On voit bien qu'il y a tout un discours politique autour du fait que les algorithmes sont objectifs. Et je crois qu'on en discutera un petit peu en dernière partie de l'émission.
Exactement.
Alors, on va se faire donc une dernière petite pause musicale. On va écouter La Clameur des Coureurs de Remparts. C'est sur l'album En Cendres. C'est sorti là il y a quelques mois, en 2021. Et c'est en licence Creative Commons by NC. Bonne écoute.
À la nuit tombée, quand les détonations se sont tues, autour d'entendre brasier suspendu, une lèvre fendue, dans un timide murmure, poussée vers l'inconnu, elle se rattrapa de justesse à une oreille perdue. Elle grandit dans la chaleur de ces ombres emmitouflées, jouant à sortir de leur torpeur les esprits tourmentés, et elle crie en perdre la voix dans la ville délabrée. Ils ne passeront jamais. Ne passeront jamais les portes de Kobané. Ne passeront jamais les portes de Kobané. Elle ne se taira plus jamais, la clameur. Pour sûr, le silence cessera, la clameur. Et quand nous serons bâillonnés, la clameur, c'est elle qui rugira. La clameur. Elle vibrait au fond de bistrot, dans le creux de discussion, elle ronronnait blottie dans la douceur de salon. Au passage d'une troupe impromptue, elle s'accrocha à un étendard pour mûrir dans les bourrasques du fabuleux tantamarre. À présent, elle fait claquer des fagnons chamarrés, trépignent d'envie de briser barrières et barbelés. Paris, Santiago ou Beyrouth, elle hurle de tout son souffle. Nous ne demandons rien, nous ne demandons rien, car nous prendrons tout. Nous ne demandons rien, car nous prendrons tout. Ne se taira plus jamais, la clameur. Pour sûr, le silence cessera, la clameur. Et quand nous serons bâillonnés, la clameur, c'est elle qui rugira, la clameur. Thank you. cité se mure dans le silence, si les fusils couvrent les bouches de la dissonance, elle serpentera depuis les sous-sols et les cours pour désassembler les canons dans un grondement sourd. Elle étouffera le mépris, les ordres au bida s'appellera à danser. Squelettes et autres carcasses, les affameurs resteront bois lorsqu'elle vociférera. Cherche camarade, cherche camarade, car le vieux monde est devant toi. Cherche camarade, car le vieux monde est devant toi. Elle ne se taira plus jamais, la clameur. Pour sûr, le silence sera la clameur. Et quand nous serons bâillonnés, la clameur, c'est elle qui rugira, la clameur.
De retour dans La Voix est libre pour cette dernière partie d'émission.
Ils sont pas mal tes sons, Quentin. On a changé de source ou c'est juste que tu sais mieux chercher les choses que nous?
Non, effectivement, maintenant on va piquer quasiment tous les sons sur le site Zik Libre en Bib. Zik Zedika, en fait, c'est un site où les personnes qui bossent dans les médiathèques et les bibliothèques référencent des albums sous licence libre avec un avis et c'est hyper sympa. Il y a un super travail qui est fait là-dessus. Et du coup, merci à Engie de Frama de nous avoir fait découvrir ce super site. Du coup, pour cette dernière partie d'émission, on va se demander, est-ce qu'il est possible de trouver des solutions pour que les IA soient moins biaisées? En fait, qu'est-ce que ça voudrait dire que les IA soient moins biaisées? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie un peu d'arnaque de se dire qu'on va réussir à faire des IA qui ne sont pas biaisées? Et donc finalement, qu'est-ce qu'on veut pour les IA? Voilà, Baptiste, tu as 18 questions auxquelles je te laisse le soin de répondre.
Ben en fait, déjà, ce qui est trop cool... c'est qu'une fois qu'on aura résolu le problème des biais des IA, et ben c'est bon, on aura résolu le problème de la morale. Parce que le problème qu'on avait jusqu'à maintenant, dont tu parlais en intro, c'était que notre IA qui faisait de la morale, c'est dommage, elle était un peu biaisée, etc. Donc la vraie bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a résolu ces problèmes de biais, c'est bon, enfin, on a résolu objectivement toutes les questions un peu chiantes, etc.
Faudra qu'on pense envoyer un mail à Kant, d'ailleurs, hein, quand ce sera fait.
Ça marche, Kant, si tu nous entends, big up à toi.
On l'embrasse.
Là, ce qu'on peut commencer à lister, c'est une sorte un ensemble de pansements pour faire en sorte que les IA soient un peu moins sexistes, un peu moins racistes, un peu moins discriminatoires, etc., un peu moins transphobes, etc. Mais ça va être plutôt de l'ordre du pansement. On va quand même vite se rendre compte qu'il y a un problème de fond. On l'a dit, le problème ici, il y a un des problèmes, c'est les personnes qui développent les algorithmes, qui ont leur propre conception du monde, qui sont biaisées, etc. Et qui du coup, c'est des personnes dont on reconnaît la subjectivité, on sait qu'elles sont subjectives, et puis elles vont mettre dans un algorithme leur subjectivité, et puis à partir de là, ça va être de l'objectivité, parce que on a une idée générale du fait qu'un algorithme est objectif. Donc on voit que le problème là, c'est un problème de représentativité. Tu vois, ce serait un peu comme dans un pays où on aurait une assemblée nationale avec que des cadres supérieurs qui prennent des décisions qui intéressent que les cadres supérieurs. Le problème, c'est bien les gens qui font les algorithmes. C'est bien les gens qui mettent leur représentation dans quelque chose qui va prendre des décisions. Donc à minima, il faut que ces personnes soient sensibilisées et formées à toutes ces questions de discrimination.
Est-ce que ça suffit pour faire un super algo?
Eh bien, pas forcément. En tout cas, déjà, pour les problèmes de structure, ça ne résoudra pas forcément les problèmes de structure. Et ensuite, le problème des données d'entrée, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un monde... le problème de l'algorithme de Twitter qui relaie plus majoritairement des tweets de droite. Le problème, c'est qu'on est dans un monde qui, généralement, est de droite. On est dans un monde où Trump a été élu, où Bolsonaro est au pouvoir. Je passe la liste générale de tous les éléments de droite du monde, mais c'est parce que c'est assez déprimant. Mais les algorithmes, ils amplifient, ils déforment des discours de nos sociétés, mais qui sont bien présents. Donc là, c'est plutôt à nos auditeurs de changer quoi. S'il y a des auditeurs de droite parmi nous, arrêtez d'être de droite, s'il vous plaît. Ensuite... Donc là, on a proposé un ensemble de pansements, mais le problème, il est fondamental. C'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que ce serait un algorithme qui ne serait pas biaisé? Quel est le comportement normal d'un algorithme qui sélectionne des contenus à votre place? Si la réponse, elle est un peu compliquée à trouver, L'algorithme, il est probablement très biaisé. Si on prend l'exemple de l'algorithme de YouTube, on le questionne souvent, il y a toujours des gens qui disent « Oui, l'algorithme de YouTube, il fait n'importe quoi, etc. » Ce serait quoi le bon comportement de l'algorithme de YouTube? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour être un bon algorithme? Est-ce qu'il devrait donner des contenus plus challengeants, plus longs, plus courts, plus compliqués, plus simples, plutôt publics? Est-ce qu'il doit s'adapter à chacun? Posez-vous la question. Qu'est-ce que fondamentalement l'algorithme de YouTube devrait faire? Et bien personnellement, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais absolument pas ce qu'il devrait faire. Le problème, c'est qu'il se substitue à une fonction qui est un peu sociale. C'est-à-dire que bah, moi, quand j'ai envie de regarder un contenu, je vais en parler à des potes, ils vont me dire ah tiens, tel truc, il est sympa, etc. Et il y a un biais, il y a plein de biais. Mais on en a conscience. Quand là, c'est l'algorithme qui prend la décision, et eh ben on sait pas. Pareil pour l'algo de Twitter, pour revenir, on s'est rendu compte que mécaniquement il favorise les tweets de droite. Quel serait le bon comportement? Qu'est-ce qu'on attend de l'algorithme de Twitter? Une solution qui est souvent proposée dans des papiers qui traitent d'éthique des algorithmes, c'est d'auditer les algorithmes. C'est une fois qu'on a développé notre algorithme, eh ben on le soumet à une batterie de tests, on vérifie qu'il relaie, donc dans notre cas, on vérifie qu'il relaie les tweets équitablement, on a des données qui sont étiquetées de gauche, de droite, etc. Et on va essayer d'équilibrer leur diffusion selon l'opinion politique, l'âge, le genre, l'ethnie de la personne qui l'émet, etc. Mais donc ça pose un autre problème, c'est que du coup, il faut collecter toutes ces données-là pour équilibrer. Il faut savoir si la personne est de droite, de gauche, etc. Est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on a confiance en la manière dont on lui demande? Est-ce qu'on le collecte ces données-là à son insu? Parce qu'on imagine que ce sera plus objectif, etc. Ça pose des vrais problèmes, en tout cas, à ce niveau-là.
Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui pourrait... contribuer à résoudre le problème, mais je sais qu'il y a pas mal de travaux autour de la morale de l'IA qui essayent justement d'entraîner les intelligences artificielles sur ce que les gens voudraient qu'elles produisent. Alors du coup, ça va continuer à comment dire, on n'aura jamais une solution objective, mais au moins on serait dans quelque chose de plus démocratique où quelque part les gens choisiraient collectivement ce qu'ils veulent que les IA produisent. Enfin, je sais qu'il y a... Pardon.
Bah en fait, le problème dans ce cas-là, c'est toujours pareil, c'est qu'on a déporté plein de subjectivités dans un objet technique et on s'imagine que c'est bon, on a créé quelque chose de merveilleux. En fait, c'est toujours le même problème, c'est qu'on a toujours une idée d'une technologie idéale, merveilleuse, qui fait tout mieux que l'être humain, qui serait capable de le remplacer, d'agir mieux en tout point. Et en fait, en réalité, c'est un truc qui ne marche pas, qui des fois se trompe, qu'il faut surveiller, contrôler, le faire marcher. On se rend encore une fois compte de la merveille de la chaîne éditoriale de Picassoft. On en parlait dans le cadre des data centers, etc. Les machines, c'est des trucs qui passent leur temps à ne pas marcher, qui passent leur temps à se tromper. Et donc, essayer de dire ça, c'est la partie de l'algorithme, ça, c'est la partie technique de l'algorithme qui ne marche pas. Non, en fait, il y a un ensemble de subjectivités. On en a déporté une partie sur le système technique. Mais le système technique, il est tout aussi subjectif que nous. La bonne nouvelle, c'est que Facebook commence un peu à comprendre la leçon du fait que ces algorithmes, même si, même selon ses objectifs, elles ont quand même un impact politique, elles sont quand même porteuses d'agentivité morale, etc. Depuis l'élection de Trump en 2016, contre leur volonté, contre la volonté de Mark Zuckerberg, on rappelle qu'il a essayé d'agir plutôt en faveur de Hillary Clinton. En tout cas, on a un certain faisceau d'indices qui nous amène à le penser. Et vous me direz, donc maintenant ils sont rentrés dans l'ère de la censure, ils censurent un certain nombre de contenus, etc. Bon, vous me direz, c'est pas mieux d'entrer dans l'ère de la censure. Mais au moins, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un impact et que leur algorithme, il était porteur d'une subjectivité, il était porteur de quelque chose qui ne serait pas fondamentalement l'objectivité, la science, la liberté, etc. Des fondamentaux qu'ils ont pas mal, quoi.
Mais peut-être pour revenir aussi sur, enfin pour continuer là-dessus et revenir sur ce que tu disais, Quentin, là sur la démocratisation en quelque sorte de des algos. Encore une fois, et pour reprendre un tropisme picassoffien, si on veut de la démocratie, de la diversité, de la possibilité du débat, etc. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas de réparer les algos de Facebook ou de Twitter pour qu'ils fassent plus ceci ou plus cela. On peut le faire un petit peu par ailleurs, hein, bien sûr, comme tu l'as proposé, comme tu l'as évoqué, Baptiste. Mais l'enjeu, c'est surtout d'avoir aussi de la diversité à ce niveau-là. Donc, on en revient à la question qu'on pose un peu depuis le début. Qui maîtrise ces algos? Évidemment, si tout le monde utilise deux réseaux sociaux, les algos de ces réseaux sociaux ont en quelque sorte un pouvoir démesuré, des enjeux démesurés associés à ces algos. Donc on en revient un petit peu toujours à la maîtrise des territoires numériques. Si on a de la diversité, donc si on a plein de réseaux sociaux, si on a plein d'instances, par exemple comme sur les réseaux décentralisé, fédéré comme Mastodon, si on a plusieurs instances, bien en quelque sorte chacun peut avoir et peut émettre peut avoir des algos différents qui intègrent des règles différentes, que ce soit même plus ou moins volontaire, involontaire, etc. Peu importe. La diversité fait que, eh ben, d'une certaine façon, on aura la possibilité de débattre de tout ça, quoi.
Oui, et puis le problème, c'est de ne pas faire confiance aussi à un système technique pour être totalement impartial. Il y avait un exemple que j'aimais beaucoup, je suis pas mal de la chaîne Thinkerview sur YouTube, et à un moment, ils ont interviewé Guillaume Meurice, qui est un humoriste qui aime bien troller un petit peu, et donc il dit « moi, je ne crois pas qu'on peut être objectif, etc. Je pense que ce n'est pas possible, avis que je partage par ailleurs. » Et l'intervieweur est totalement scandalisé parce que il dit nous on choisit on laisse tout le monde choisir les intervenants, donc il y a une sorte d'objectivité qui émane de l'ensemble, etc. Et en fait non, là-dessus il se trompe, c'est-à-dire que il a juste une subjectivité collective, la synthèse d'une subjectivité collective, mais il a pas créé de l'objectivité, il a pas la bonne réponse, on n'a pas le bon intervenant parfait, etc. On a juste synthétisé des avis de plein de gens.
Mais quand même, moi, je suis pas super fan hein, des algos d'IA, mais je me dis que il y a certains cas où je me demande par exemple sur YouTube, il y a vraiment une masse de vidéos absolument considérable. On peut imaginer que à un moment donné, même sur PeerTube, il y ait un réseau d'instances fédérées où il y a vraiment une très très forte masse de vidéos et qu'on voudrait quand même, comme tu dis, pouvoir, enfin non pas comme tu dis, mais avoir quelque chose qui fait une sélection, parce qu'on peut pas toujours classer par date. Enfin, on voit bien sur les sites où les contenus sont juste classés par date, on n'y arrive pas. Et choisir ces critères, comment est-ce que ça se fait techniquement, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est juste parce que j'avais vu un des travaux de recherche de la personne qui est derrière la chaîne YouTube de Science for All, un mathématicien qui parle pas mal d'IA, et qui ont monté une plateforme qui est accessible sur tournesol.app, où l'idée, c'est d'essayer de créer une intelligence artificielle qui est robustement bénéfique, c'est-à-dire qui va être moins sujette au biais des données d'entrée. Donc ça, c'est un peu technique et je n'ai pas tout compris. Mais un des points, c'est d'essayer de se dire, aujourd'hui, l'algo de YouTube, par exemple, son objectif de base n'est pas bon, puisque c'est de maximiser les vues et le temps passé sur la plateforme. Alors que là, en demandant donc sur tournesol.app, hein, tout le monde peut y participer, aux gens de noter les vidéos en fonction de si ils ou elles pensent que c'est d'utilité publique, que le contenu est de qualité, etc. On peut au moins créer un jeu de données qui va aller vers un objectif, semblerait-il, qui est plus bénéfique pour l'humanité, mais ça reste encore à définir, que tout ce que ça va impliquer de juste vouloir maximiser le nombre de vues. Je suis désolé, je suis pas très très clair, mais voilà.
Non, et puis on en revient au fait que, de manière générale, les données qui sont collectées, elles sont collectées avec un but. On n'a pas des données qui se baladent dans la nature, etc. On a créé un dispositif qui va permettre de collecter, de traiter automatiquement des données avec un objectif qui est faire plein de thunes. Et du coup, bah oui, forcément, c'est un biais sur la manière dont bossent les algorithmes. Mais effectivement, si on s'abstrait de ça, on peut refaire venir... On diminue la place de ce biais-là, mais on aura toujours une émanation d'une forme de subjectivité. Ce qui est par ailleurs plus positif qu'avoir un énorme biais du but de l'algorithme.
Ouais, complètement. Complètement, complètement.
Il va falloir conclure peut-être si on ne veut pas avoir beaucoup de montage à faire, non?
Eh bah oui, bah, je propose du coup qu'on s'arrête là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Ouais, juste pour terminer, quand on utilise une plateforme comme Mastodon, qui n'a pas d'algorithme, etc., qui vous laisse choisir vos critères, etc., oui, très vite, va se poser la question de comment choisir le critère, qui va choisir vos critères, etc. Mais la grande différence avec Mastodon, c'est que c'est vous qui choisissez vos critères, c'est pas une multinationale qui de temps en temps oublie de payer ses impôts en France, qui ordonnance à votre place, avec ses billets à elle, pour vous, c'est vous, avec vos billets, qui pouvez... contre lesquels vous avez le choix de lutter ou non, mais ça vous regarde, c'est votre problème, qui va ordonnancer les contenus, etc. Et donc, le problème dont on a vraiment parlé dans cette troisième partie d'émission, c'est vraiment de accepter que les IA n'ont pas la réponse aux questions morales, la solution au idéal de l'ordonnancement des vidéos, etc. Et que c'est bien un problème complexe.
Et donc, quitte à avoir des IA, une sorte d'archipel d'IA décentralisé, fédéré, quoi, un truc comme ça.
Exactement.
Eh bien...
On peut héberger.
Bon, et ben merci beaucoup Stéphane Baptiste d'avoir été présent pour l'émission. Pour rappel, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassoft.net. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine où on parlera des GAFAM des légumes. Bonne semaine, ciao.